Chapitre 67. Saga traverse un vestiaire composé de 5 armoires métalliques et d'un grand évier en zinc. Des rubans à attrape-mouches séchées pendent devant la fenêtre et des serviettes en papier sont empilées sur le sol en ciment. L'adrénaline commence à quitter son corps. Dans le passage, elle était tellement sûre d'avoir entendu des pas qu'elle était prête à crier à l'aveugle dans l'obscurité. Mais lorsqu'elle a allumé la petite lampe de poche, il n'y avait personne. Elle a vu son doigt trembler sur la détente. Les bruits de pas avaient disparu. Elle se tient à présent devant une porte avec une vitre en verre dépolie et accrochée dessus un panneau en plastique stratifié indiquant les règles de sécurité à respecter dans l'atelier. C'est le domaine de Mara, songe Saga en levant son Glock. Puis elle ouvre doucement la porte. La faible lumière du ciel étoilé s'immisce à travers la rangée de fenêtres situées en hauteur. Sous le toit en tôle, des traverses sont équipées avec ce qui ressemble à un système de levage. Saga tend l'oreille. Entre, sécurise rapidement les deux côtés de la pièce et court s'accroupir derrière un établi en acier. Dans un bac en plastique, traînent un masque de protection et des gants chimiques décolorés. Une légère odeur de pourriture flotte dans l'air stagnant. D'énormes bidons en plastique sont alignés contre un mur. Sous le pont roulant, une planche de contreplaqué est entièrement recouverte de sang séché. La traînée s'écoule sur le sol jusqu'à un siphon. Une rampe en béton mène à un quai de chargement dont la porte est fermée par un rideau en lamelles de PVC jauni. Saga projette de fouiller tout le bâtiment avant de trouver un endroit où se cacher pour attendre Mara. Elle devrait appeler Juna. Plutôt que d'essayer de résoudre ses énigmes, ils doivent tendre un piège à Mara. Elle se lève et balaie l'atelier avec son arme. Elle examine ensuite les portes, celles qui mènent au vestiaire, puis celles vers le passage au sol sableux. Elle devine une autre porte en bois goudronné de l'autre côté de la pièce, menant probablement à l'ancienne ferme. Elle se dirige ensuite vers le rideau à lamelles en PVC, dans la partie plus moderne de la cour. Elle enjambe un rouleau de caoutchouc épais et gravit la rampe jusqu'au quai de chargement. Derrière le PVC, elle distingue une pièce plus claire, avec des tuyaux de ventilation recouverts d'aluminium. Avec son épaule, Saga pousse les lamelles, qui émettent un bruit poisseux lorsqu'elles se détachent les unes des autres. Elle jette un rapide coup d'œil derrière elle. Puis franchit le seuil, s'agenouille, et pointe le canon de son arme tout autour de la pièce. Dans un coin trône un grand séchoir, et à côté, une porte ouvre sur la salle de stockage des céréales. Le temps est compté. Dans 9 minutes, Carl va appeler Juna. Saga s'approche de la porte en fer. Une lourde barre transversale est suspendue à l'un des montants. Elle pénètre dans un entrepôt avec des hauts murs en tôle et le sol recouvert de poussière de farine et de blé. Une multitude de palettes sont empilées au centre de la pièce. Saga s'apprête à faire demi-tour lorsque son regard est accroché par un détail inattendu. Sur le sol, à 5 mètres de la porte, est posée une matrioshka, une poupée russe en bois contenant d'autres poupées de taille décroissante. Pour la 3e fois, Carl vérifie que les portières de la voiture sont bien verrouillées. Il regarde de nouveau dans le rétroviseur latéral. Le vent souffle sur la cime des arbres et les branches disparaissent dans l'obscurité de la nuit. À présent, il est presque impossible de discerner le chemin. La lumière est si faible que les graviers semblent être en lévitation, comme s'ils flottaient dans le lit d'une rivière. Il fixe la nuit à travers le pare-brise. Quelques creux dans l'allée accrochent la lumière. Et si Saga n'avait pas vu la voiture? Et si Mara était cachée quelque part? Il jette des regards nerveux dans les deux rétroviseurs. Par la lunette arrière, la route est encore à peu près visible. Une racine a soulevé le sol. On dirait un genou qui sort du gravier. Il incline le rétroviseur et scrute le fossé juste derrière la voiture. Les mauvaises herbes tremblent étrangement et les fleurs blanches du cerisier se penchent lentement sur le côté. Nouveau regard dans le rétroviseur latéral, puis dans le rétroviseur intérieur. Tout est immobile. Les marguerites se mettent doucement à danser. Entre les tiges et l'herbe des prés, il aperçoit soudain une main. Il cligne des yeux. Non, ce n'est que le fruit de son imagination. Un fantasme excessif. Il a contracté une encéphalite à l'âge de 12 ans. Une primo-infection cérébrale avec délire et crise d'épilepsie. Ce qu'il a vécu pendant les pics de fièvre qui ont précédé l'arrivée de l'ambulance au chalet d'été dans le Smoland ne l'a jamais vraiment quitté. C'était un soir. Il était tard et il était assis seul sur une chaise à l'extérieur de la maison. La petite pelouse était parsemée de pommes de pin. À la lueur de la lune, il a soudain vu surgir une silhouette à la lisière de la forêt. C'était un amas de chair, des morceaux d'animaux qui avaient été assemblés avec des parties humaines. La créature avait un cou épais, une tête de taureau et des bras luisants de sang. Elle s'était approchée en passant les mains sur le cuir tanné de son tablier de boucher, avait regardé en direction de la maison, tout en inclinant la tête sur le côté pour mieux entendre l'obscurité. Karl n'avait pas fait un geste pour se lever de sa chaise et aller se réfugier dans le chalet. Il était resté assis là, paralysé, le souffle coupé, jusqu'à ce que son corps soit pris de convulsions. Il n'avait repris connaissance que le lendemain à l'hôpital. Karl scrute l'obscurité. Il tend la main et ajuste encore une fois l'angle du rétroviseur. Quelque chose gît dans le fossé, enveloppé d'un tissu noir et brillant. Puis, l'ombre se met lentement à marcher. Les herbes se courbent sur son passage. Karl s'enfonce dans son siège et essaie de respirer profondément. De manière irrationnelle, il se dit qu'il n'aurait pas dû quitter la voiture, que c'est comme dans les contes où il y a des règles à respecter. En les enfreignant, il a attiré l'homme aux amas de chair. Un crissement déchire le silence derrière la voiture. On dirait des ongles longs qui griffent la carrosserie. Karl retient son souffle. Peut-être que rien n'a bougé dans le fossé. Peut-être était-ce juste le vent jouant avec les mauvaises herbes qui a créé une illusion. Il porte la main à sa bouche et essaie de respirer calmement entre ses doigts. Un bruit sourd retentit sur le toit de la voiture. Il réussit à s'empêcher de crier. Puis un raclement. Un pigeon ramier se pose sur le capot, reprend son équilibre et fait quelques pas vers le pare-choc. Karl regarde à nouveau dans le rétroviseur. Rien dans le fossé. Il essaie de se ressaisir, mais la sueur dégouline de ses aisselles. Il n'y a personne ici, se persuade-t-il, et il ouvre la portière afin de conjurer le mal. Le pigeon s'envole dans un sifflement. Le cœur battant, il sort dans la nuit. Il fait le tour de la voiture, regarde dans le fossé et donne des coups de pied dans les mauvaises herbes. Il aperçoit un sac poubelle en plastique noir dans les broussailles. Il le ramasse et regarde à l'intérieur. Celui-ci est rempli de vieux vêtements et de chaussures dépareillées. Il le repose et commence à marcher le long du chemin gravillonné en direction de la ferme. Ces derniers temps, il n'a pas souvent eu peur du noir. Le malaise qu'il ressent le rend vigilant. Il sait qu'il doit saboter la voiture de Mara afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. Il s'engage dans l'allée étroite et suit la bande d'herbe centrale. Les maisons sont tassées les unes contre les autres. Il débouche dans la cour, ralentit, et essaie de comprendre d'où provenaient les lumières. Sans doute de la petite lampe de poche que Saga a utilisée pour aller du garage jusqu'au grand bâtiment. Il observe le mur en planches de bois fissurées, tourne son regard vers le bosquet de bouleaux, aperçoit un grand réservoir, s'en approche, et les feux arrière rouges apparaissent. Il regarde par terre, trouve un éclat de verre à côté des poubelles, le ramasse et se dirige vers la voiture. Des briques cassées sont empilées près d'une souche. Il passe devant le réservoir de diesel et voit que le véhicule est caché sous un filet de camouflage. C'est un vieux pick-up Ford. Carl essaie d'insérer le bout de verre dans un des pneus arrière, mais c'est impossible. Il se dit qu'il y a peut-être un couteau ou un tournevis dans la benne. Se penche en avant, détache une sangle et rabat un pan du filet. Des centaines de mouches s'envolent en bourdonnant. Le cœur de Carl se met à battre plus vite. Ça sent les cheveux brûlés et les produits chimiques. Un énorme sac est posé dans la benne du pick-up. Carl fait un pas en arrière, en voyant les petites fissures dans le caoutchouc noir.